Nous allons poursuivre la découverte des équipes Saint-Vincent et on peut dire de toutes ces ramifications, puisque la dernière fois, nous étions avec l'accueil des familles de prisonniers. Hein. C'est pas tout à fait des visiteurs de prison, puisqu'elles ne rentrent pas dans les prisons. Hein. Elles accueillent les familles qui vont aller au parloir, comme on dit. Là, on va changer complètement de sujet avec les équipes Saint-Vincent, puisque nous allons parler de l'aide que vous donnez aux migrants et plus largement à d'autres personnes avec les dons et les denrées alimentaires que vous distribuez. J'ai le plaisir d'avoir Christiane avec moi, Maïté et Rachel. Merci, mesdames, d'être venues jusqu'à nous, jusqu'au studio de Radio Présence.
Merci à vous.
Les équipes Saint-Vincent, elles interviennent dans plusieurs... De Tarbes, oui, les équipes Saint-Vincent de Tarbes interviennent dans... bien de me rectifier, interviennent dans plusieurs domaines. On va parler des migrants. À qui s'adressent d'ailleurs vos interventions particulièrement? Qui c'est qui se lance? Christiane ou Rachel? Dites-moi.
Eh bien, nous adressons en particulier à toutes les personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire, puisque c'est les bénévoles qui proposent de venir aux ateliers, et en particulier aux ateliers de français, lorsqu'elles repèrent que les migrants ont beaucoup de difficultés à s'exprimer et à comprendre en français.
Comment vous gérez d'ailleurs ce problème de la langue? Quand une personne vient d'un pays étranger, qu'elle ne connaît absolument pas la langue française, qu'on leur a dit de venir vous rencontrer pour leur donner un coup de main, comment ça se passe?
Alors, elles utilisent pas mal leur téléphone pour avoir une traduction.
D'accord.
Elles sont parfois accompagnées par des personnes du CADA qui, quand les cas sont importants, qu'elles ont vraiment besoin d'aide alimentaire, les accompagnent. Et puis, on a autour de nous, on a parfois des dames qui traduisent. Et après, avec les gestes, on réussit à comprendre. Et les papiers.
Bon, voilà. Petit à petit, vous arrivez à vous êtes, Rachel, une ancienne professeure. Et même, vous avez eu la direction d'un établissement scolaire. Est-ce qu'on arrive quand même petit à petit à leur apprendre la langue, ou au moins se débrouiller avec quelques mots, avec quelques phrases?
Oui. L'objectif quand même pour nous, et en particulier pour l'atelier donc de français oral et écrit, c'est de les intégrer déjà par la langue. La langue, c'est primordial dans un pays. Ne serait-ce que déjà savoir lire, pouvoir lire le journal, lire les enseignes.
Les documents peut-être aussi.
Les documents. Donc c'est pour ça que l'intégration par la langue nous semble extrêmement importante.
Donc, vous organisez des sessions pour apprendre la langue?
Absolument.
Comment ça se passe?
Au niveau de la langue, nous distinguons la langue française dans la conversation, pour écouter l'autre et savoir lui répondre. Et il y a un autre atelier où on travaille plus l'écrit. On travaille aussi l'oral, bien sûr, mais aussi l'écrit.
D'accord.
Pour qu'elle sache éventuellement faire un CV, tout simplement, qui l'a invité pour demander du travail, parce qu'elle cherche, ces dames, elles cherchent à travailler parce qu'elles ont besoin d'argent, tout simplement.
Ces des cours que vous donnez ou ces ateliers, elles sont régulières?
Oui. Ces interventions sont régulières. Christiane, elle fait des interventions le lundi après-midi.
D'accord.
Rachel, je fais plutôt le jeudi après-midi.
D'accord. Donc, le lundi après-midi et les jeudis après-midi, ils peuvent venir apprendre le français oral et écrit.
Tout à fait.
Quels que soient les pays où ils viennent, ou vous essayez de regrouper par pays?
Absolument pas. Ils viennent de tous les pays et... On les accueille, sans problème.
Voilà. Ce qui nous permet... Alors, ils commencent par la conversation. Et après, c'est Christiane m'envoie, entre guillemets, me dit que mais telle personne, elle se débrouille. Puis maintenant, elle peut passer à l'écrit. Et donc on, toutes les deux, on est complémentaires, évidemment. Et ça permet d'affiner. Et ça permet de fidéliser aussi des personnes. Et il y a des liens qui se créent.
Ils sont demandeurs.
Ils sont absolument. Oui,
d'apprendre la langue.
Oui. Même pendant les conversations, elles ont souvent un petit cahier, elles notent, elles me demandent d'écrire des mots. Oui, elles veulent. Je pense qu'elles veulent devenir françaises. Donc, il faut parler français. Oui. Elles ont très bien compris ça. Mmh. Elles font beaucoup d'efforts.
Et vous voyez, ce sont des bons élèves. Vous voyez les progressions.
Les jeunes, surtout. Oui. Les jeunes, c'est impressionnant de les voir évoluer. Et moi, j'en suis très fière, mais enfin, il n'y a pas que moi. Elles évoluent partout. Elles trouvent toujours des moyens de faire des progrès. Les personnes âgées, c'est un peu plus difficile. Mmh. Voilà. C'est un peu dommage, mais là, c'est plus dur.
Mais effectivement, Christiane a tout à fait raison, et je vais tout à fait dans son sens. On sent qu'elles veulent s'intégrer, les jeunes. Elles veulent pouvoir travailler. Elles veulent pouvoir aller à l'école et comprendre ce que les enseignants disent par rapport à leurs enfants. Et elles veulent pouvoir les aider à l'école aussi, dans le suivi de leur scolarité. C'est extrêmement important.
Du coup, si elles sont mamans d'enfants qui sont scolarisés après en France, les enfants aussi les aident au quotidien à apprendre le français aussi.
Oui, ça les pousse aussi.
Je les incite à parler français avec leurs enfants. Certaines me disent, on le fait, d'autres...
Elles
sont du mal quand même.
Est-ce qu'elles ont l'impression, bien sûr, elles arrivent dans un pays étranger, de lorsqu'on apprend la langue, bon, on en a besoin bien sûr pour après échanger pour le quotidien. Hein, mais est-ce qu'elles ont un peu l'impression de renier leur langue, leur passé?
Non, pas du tout. Moi j'ai beaucoup de soucis parce que j'étais institutrice aussi et j'ai vraiment des bavardages importants. En russe, en arménien. Oui, il faut que j'intervienne en disant stop.
Ça va, c'est un peu comme à l'école, quoi.
Oui, taisez-vous, stop. Et maintenant, vous allez me dire en français ce que vous étiez en train de vous raconter. Donc, ça calme de suite.
D'accord.
Voilà. Et elles traduisent.
D'accord.
Voilà, c'est très sympathique. Mais non, elles ne renient rien, hein, je ne pense pas. Non.
D'accord.
Non. Elles sont très... Elles gardent tout. Elles, en particulier, elles nous font beaucoup de gâteaux. Et des gâteaux arméniens, des gâteaux russes, qui sont délicieux. Ce n'est pas du tout notre pâtisserie à nous, mais c'est très, très bon. Donc, elles ne règnent rien. Mais l'important, c'est qu'elles deviennent françaises, je crois, pour elles.
Quels sont sur Tarbes, quels sont les migrants qui viennent vous rencontrer? D'où ils viennent? Principalement, vous disiez des pays de l'Est.
Oui, beaucoup viennent des pays de l'Est.
Quand même l'Arménien.
Beaucoup d'Arméniens.
Ouais, de l'Albanie aussi.
Albanie, des Géorgiens arrivent en ce moment.
Des Ukrainiens.
Voilà. L'Azerbaïdjan.
Quelques familles aussi qui viennent du Maroc, d'Algérie ou d'Éthiopie.
Mais il y en a très peu là qui arrivent.
Du Maroc, il y en a un tout petit peu.
Sur l'Algérie, le Maroc, la langue française a été quand même pratiquée pendant de nombreuses années. Ils ont un peu cette connaissance ou pour certains pas du tout?
Certains pas du tout.
D'accord.
Hein.
Non.
Ça se perd du coup. La langue française est en train de perdre.
Absolument. Et ce qui, je voudrais compléter l'intervention de Christiane. Ce qui nous permet aussi d'échanger avec ces dames. Alors, nous, je suis comme Christiane, évidemment, la priorité, c'est de parler français, même entre elles. Et nous organisons des sorties. Une fois par mois, on organise des sorties.
Une promenade, en fait.
À l'extérieur, où elles découvrent les environs de Tarbes, parce qu'elles n'ont pas de véhicule.
D'accord. Hein,
elles se déplacent essentiellement à pied ou en bus. Et à l'occasion de cette sortie, ces dames, effectivement, comme nous, Françaises, on est assez gourmandes, elles nous préparent, et on ne leur a jamais demandé, elles nous préparent des spécialités, elles amènent le goûter.
C'est un peu aussi leur fierté de vous amener un peu leur culture et leur façon de vivre.
Absolument.
Elles le partagent avec vous.
Elles sont très, très fières. Elles sont très fières. Mais pour une fois, c'est elles qui donnent.
Oui.
Hein, et nous, on reçoit. Et c'est le partage. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, quelque part, il y a des liens qui se créent entre ces personnes et nous.
Sûr. Parce que vous donnez ces cours de français et vous participez aussi à ces marches, alors vous êtes aussi présente.
Oui. Ah oui, oui, oui,
absolument. Aux marches, tout à fait.
Ça permet en fait de faire un petit peu corps avec elle.
Et j'en profite pour faire du français avec elle aussi.
Oui, voilà. Bien sûr.
Tout en faisant un peu d'exercice, un peu de marche.
Tout à c'est fait, ça. En marchant, c'est très agréable de parler.
Oui, oui. Et puis, on découvre la nature, on leur dit comment s'appellent les arbres. Voilà, ça, c'est des feuilles mortes, on dit en français. Voilà. Donc, oui, on leur apprend la nature que l'on découvre avec elle.
Et on a une langue compliquée. Oui. Par exemple, hier, je leur disais qu'il faisait frais. Donc, elles ne comprenaient pas. Entre frais et froid, elles avaient du mal à comprendre.
Oui, c'est vrai qu'on a une langue très
compliquée.
Et même nous, on a du mal à la pratiquer comme il faut. Donc, ce n'est pas évident pour une personne étrangère. Il y a donc effectivement cette aide-là sur le français. Vous avez aussi, vous donnez des ateliers de couture. Pourquoi des ateliers de couture?
Parce que l'atelier de couture, c'est...
Moi, non, je ne suis pas là.
Non, elle n'est pas là, c'est Marie-Lys.
Non, je disais qu'après, on allait parler avec vous.
Oui, j'ai compris.
Maïté, on va venir vous voir dans un autre local avec...
Vous savez.
C'est important aussi. Oui, on leur propose un atelier de couture-tricot.
En fait, il existe depuis très, très, très longtemps.
Ah ben oui.
Et on l'a conservé très, très longtemps. Puis c'est Marie-Lys de Bastard qui a été responsable de notre association. Je crois pendant 9 ans et 6 ans et puis après 3 ans. Donc elle a créé cet atelier et c'est un moyen de partage et d'échange en français aussi.
En plus, voilà. Comme les balades.
Et elles sont très, très friandes. Elles viennent parler français avec moi et si je leur dis est-ce que vous allez en couture là-haut, presque toutes disent oui, je monte.
Et le tricot aussi.
Oui, on fait les deux. Ouais. Oui, on fait les deux. Et dans cet atelier couture et tricot, auquel je participe aussi, on a des équipières qui viennent ponctuellement nous aider, quoi.
Oui.
Parce que y a quand même du monde. Et donc, Marie-Lys, qui est à l'origine de la création de cet atelier, eh bien, tu es ravie de m'accueillir parce qu'une nouvelle bénévole. Avant, elle était toute seule.
D'accord.
Et là, on vient d'intégrer une nouvelle bénévole.
Isabelle.
Oui. Ce qui va permettre Marie-Lys de lâcher petit à petit.
Petit à petit, oui. Voilà. Mais parce que malheureusement, le bénévolat, ça devient de plus en plus compliqué.
Bénévolat, c'est limite aussi. Hein,
oui, il faut aussi sur son temps. Alors, on a parlé de la langue, on a parlé de l'atelier couture. On va aller voir un petit peu Maïté qui n'a pas trop parlé.
Ah ben, parce que ça, c'est pas mon rayon.
Nous allons parler maintenant du vestiaire. Le vestiaire, c'est deux fois par semaine.
Oui, le lundi et le vendredi.
Lundi, vendredi, c'est quoi un vestiaire?
Alors, un vestiaire, c'est les vêtements que les gens nous apportent. Et quand on fait un tri, après, ce qui est vraiment pas vendable, disons.
Trop abîmé,
voilà, on l'apporte au recyclage. Et ensuite, on vend les autres 1, 2 euros. 4 euros maximum.
D'accord. Ça vous arrive, par exemple, avec l'atelier couture, de reprendre un vêtement qui aurait un accro?
Non, on n'en est pas encore là.
D'accord.
Non,
parce que les vêtements retenus, comme dit Maïté, c'est des vêtements qui sont en bon état.
D'accord.
Ouais, non, on ne fait pas de...
Mais on ne désespère pas de créer des choses. Il faut du temps.
Il faut du temps, bien sûr. Donc, le vestiaire, on vous importe des vêtements et donc les personnes qui n'ont pas trop de revenus viennent se procurer. Soit, si elles n'ont vraiment pas de revenus, vous le donnez, mais sinon, vous le vendez à un prix modique.
Mais il y a des personnes aussi extérieures qui ne sont pas dans la précarité, qui viennent à notre vestiaire.
Pourquoi?
Parce que je trouve que c'est intéressant, les prix, et puis finalement, ça aide l'association aussi.
D'accord.
Parce que ceux qui ne paient pas n'est rien, c'est pas ça qui va nous aider à améliorer notre vestiaire et tout. Alors, il faut qu'on ait aussi un peu de ces gens-là.
D'accord.
Bien sûr.
Voilà.
D'accord. Ça permet de rentrer un peu d'argent dans l'association et de proposer des
Voilà. Des et puis, ça nous permet d'acheter aussi des couches, tout ça, pour bébés, des produits d'hygiène pour les femmes, tout ça... Voilà.
Et puis, ne pas oublier de payer le loyer du local.
Et puis, de payer le loyer du local. Ça nous a permis d'acheter des étagères.
Oui.
Qu'est-ce que c'était qu'on a acheté encore
la
oui, des portants.
Et puis la cabine.
La cabine d'essayage. Voilà.
Oui, oui. C'est quelque chose qui se met petit à petit, voilà. De se mettre en place et s'améliore. Et s'améliore.
Voilà. Parce que vous savez, 1-2 euros, il faut en vendre des vêtements.
Oui, tout à fait. Et payer l'électricité.
Payer l'électricité, tout.
Donc ce vestiaire, c'est vous qui vous en occupez, Marité?
Oui.
D'accord. Donc,
avec une autre équipière maintenant qui est arrivée, ça fait même pas un an. Voilà, qui s'est investie avec moi là-dedans.
T'es là, et puis tu as aussi des...
Et puis après, oui, j'y viens. Et puis, on a des bénévoles, des accueillis qu'on a, accueillis qui venaient à la banque alimentaire et tout. Et maintenant, qui viennent au vestiaire nous aider.
Pour vous aider.
Oui.
Elles vous rendent un peu l'appareil.
Voilà.
C'est ça.
Oui. Et puis, elles sont très contentes. J'en ai... Elles voudraient toutes venir, quoi.
Passer un moment... C'est aussi un moment de convivialité entre vous,
d'échanges,
de discussions.
Mais par contre, moi, j'exige que quand elles viennent au vestiaire, elles parlent français. Hein. Même s'il y en a deux du même pays... Elle parle français.
D'accord.
Ah oui, là, je suis intransigeante là-dessus.
Merci, Maïté.
Ah oui, non, mais elles sont en France, il faut qu'elles apprennent. Si elles viennent là pour parler dans leur langue, ce n'est pas le but. Hein.
D'accord, donc il faut qu'elles se forcent à parler français.
Voilà, oui.
Et qu'elles accueillent aussi les gens en français.
Voilà, oui.
Pour les renseigner. Alors, on a parlé de la langue, qui est très important, bien sûr, pour quelqu'un qui arrive dans un pays. C'est la communication, c'est les échanges, ça c'est... Voilà. On a parlé donc de ces ateliers, les promenades, du vestiaire donc, qui est très important aussi. On va finir par parler du côté alimentaire, parce que vous aidez aussi les personnes à pouvoir survivre pour certaines.
Oui.
Parce que vous me disiez que tant qu'on n'a pas les papiers, on n'a pas l'autorisation, parce que peut-être que les gens ne savent pas de travailler.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on dit souvent de façon... Il réfléchit.
Ouais,
les migrants, ils ne veulent pas travailler, voilà. C'est des fainéants, ils ne peuvent pas travailler. Sauf que, en fait, la réglementation impose qu'il faut avoir l'autorisation de travailler. Et quand on ne l'a pas, voilà, alors à part le faire de façon clandestine, qui n'est pas non plus une solution, on ne peut pas travailler. Donc on vit malheureusement de l'assistanat.
Et voilà.
Tout à fait.
Oui.
En fait, ils n'ont pas le choix. C'est effectivement la réglementation française qui ne leur permet pas de travailler tout de suite.
C'est-à-dire, un employeur ne pourrait pas leur faire un contrat de travail.
Ils n'auraient pas le droit.
Ils n'auraient pas le droit.
Non, c'est compliqué pour eux.
Donc ils vivent malheureusement d'un peu d'assistanat avant que les papiers se mettent en place.
Et longuement, c'est plusieurs années d'attente pour avoir le droit, l'autorisation de travail. Plusieurs années.
C'est des choses qu'il faut souvent dire, non, je pense, parce que
c'est
quelque chose qu'on ne sait pas.
C'est important que les gens le sachent.
Oui, avant de porter un jugement, d'ailleurs on n'a pas à juger qui que ce soit, mais avant de dire des stupidités, il vaut mieux savoir qu'effectivement, tant qu'une personne, tant qu'un migrant n'a pas l'autorisation de travailler, il ne peut pas travailler. Mmh. Ou alors, c'est
en dehors
de la réglementation, en dehors de la loi.
Mais ils n'ont pas de couverture sociale, ils n'ont pas.
Ah, mais ils n'ont rien. Ils sont contents aussi de travailler un peu quand même.
Oui. Et puis, ils peuvent participer. Ça permet aussi de se sentir utile, de ne pas vivre...
Ce serait bien qu'ils puissent travailler. En même temps, c'est difficile de les intégrer par le travail et puis après leur dire « repartez ». Donc, je comprends.
Enfin, c'est une situation
complexe.
Les gens que vous recevez, ce sont des gens qui sont là depuis maintenant depuis quelques années.
Ah oui, il y en a, oui. Il y en a des nouveaux qui arrivent.
Le